L'enquête publique pour le projet de parc éolien Moulin du Bocage est en cours. Il s'agit d'un projet de 6 éoliennes qui seraient installées sur les communes de Noyant-d'Allier et Gipsy. Radio Quiconque-Rhône vous propose une série d'interviews effectuées en collaboration avec la communauté de communes du Bocage Bourbonnais. Et ces interviews ont pour objectif de permettre à la population de prendre en compte différents points de vue sur les éoliennes en général et sur ce projet spécifique. Monsieur Stéphane Signoret de Négawatt va nous parler aujourd'hui de l'éolien. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors je voudrais d'abord que vous nous présentiez Négawatt.
Eh bien Négawatt en fait c'est une association qui a été créée il y a presque 20 ans avec des gens spécialisés dans le secteur de l'énergie, des gens de terrain qui ont eu envie de penser à l'avenir du modèle énergétique français pour sortir du schéma habituel. Et du coup, son travail a pris la forme de ce qu'on appelle un scénario, c'est-à-dire on décrit un chemin d'aujourd'hui jusqu'à 2050 pour faire changer le système énergétique français avec un objectif majeur qui est de ne plus émettre de CO2, hein, puisqu'on sait que le problème premier aujourd'hui, c'est le climat.
Alors, c'est bien une association, hein, c'est une association. Est-ce que vous pouvez nous dire en gros ce qu'est la transition énergétique?
Alors, le travail de cette association, qui a pris la forme de ce scénario, qu'on a publié et réactualisé plusieurs fois, le dernier date de 2017, en fait, cette transition, nous, on lui donne trois piliers hein, principaux. Les deux premiers, ce sont la sobriété et l'efficacité énergétique. Alors ça, c'est très important parce que c'est en fait les deux points essentiels qui vont permettre de diviser par deux la consommation d'énergie finale en France à l'horizon 2050. Et qu'est-ce que ça veut dire, la sobriété et l'efficacité? Ça veut dire isoler les bâtiments, par exemple. Ça veut dire, au niveau urbain, essayer de rapprocher les zones de travail et les zones de logement. Ça veut dire, par exemple, aussi consommer plus local. Il y a aussi toute une partie sur l'agriculture, hein, développer l'agroécologie, l'agroforesterie, hein. On connaît bien le bocage dans le Bourbonnais, et ça en fait partie. Un peu moins de viande aussi, parce que les impacts de CO2 de la viande sont importants. Puis on peut aussi imaginer, hein, comme on balaye tous les secteurs dans ce scénario, que ce soit le bâtiment, l'industrie ou le transport, on peut aussi imaginer dans le scénario qu'on évite un peu l'avion sur les grandes distances, sur les petites distances, on maîtrise ses déplacements en voiture, on utilise les transports en commun quand il y en a, ou bien ce qu'on appelle les mobilités douces, par exemple le vélo, la marche à pied quand c'est possible, ou bien simplement, et je vais arrêter cette énumération bien sûr, limiter par exemple le nombre d'équipements électriques et électroniques. Donc voilà, avec ces sobriétés et efficacité, on peut diviser par deux la consommation d'énergie. Et puis une fois qu'on a fait ça, parce que la transition c'est pas uniquement réduire sa consommation, même si c'est le point principal au début, on propose dans le scénario Négawatt de remplacer les ressources traditionnelles de production d'énergie, hein, que ce soit les ressources fossiles comme le pétrole, le charbon et le gaz naturel, et puis les ressources fissiles, hein, c'est-à-dire l'atome, le nucléaire, on propose de les remplacer au fur et à mesure hein, des années par des énergies renouvelables. Voilà, et ça, on peut le faire dans tous les secteurs, bâtiments, industrie, etc. Ou bien, on peut le faire surtout pour tous les usages. Hein, et il faut rappeler, je pense à vos auditeurs, que les premiers usages de l'énergie en France, c'est tout d'abord la chaleur, ensuite l'électricité et ensuite les carburants. Enfin non, même dans l'ordre inverse, chaleur, carburant et électricité. Et bien souvent, on se focalise sur ce problème de l'électricité, bon, qui est quand même important, mais qui est bien sûr pas la première consommation d'énergie en France, loin de là. Et pour en finir avec ce scénario, ce qui est important de voir, donc c'est que donc tout ça, ce sont des calculs hein, que l'association a fait, relativement longs et compliqués, échelonnés sur des années, hein, donc en l'occurrence 2017 à 2050 pour la dernière version de ce scénario. Et qu'est-ce qui arrive au bilan, au final hein, c'est ça qui est important, c'est qu'on arrive à diviser par 7 les émissions de gaz à effet de serre de la France. Hein, et ça, on s'évertue à le dire parce que c'est très important, c'est le seul chemin possible pour atteindre la neutralité carbone. Cette neutralité carbone qui peut-être un terme un peu barbare qui ne parle pas à tout le monde, mais qui est un objectif de la France maintenant, qui veut dire qu'en 2050, on doit émettre pas plus de CO2 que ce que les arbres, le sol, la nature peut en absorber. Forcément, c'est un objectif très ambitieux, mais on montre que ce chemin Négawatt, hein, ce scénario, permet d'y arriver, ce qui à terme permettrait de limiter le réchauffement moyen mondial à plus de degrés.
Voilà, un objectif important donc pour l'environnement et donc pour l'humain.
Ah bah exactement, parce que au-delà de ce que je viens de dire sur la limitation du CO2, des gaz à effet de serre, avec tous les problèmes du réchauffement climatique qu'on connaît, c'est qu'il y a d'autres vertus, je dirais, à ce scénario négawatt. Par exemple, on divise par trois les polluants routiers, hein, simplement parce que, comme les véhicules ne roulent plus avec du pétrole, et ben ça émet moins de polluants. En isolant mieux les bâtiments, c'est aussi moins de précarité énergétique, hein, ça c'est très important en France, on a quand même beaucoup de gens qui ont un souci à ce niveau-là. Et puis, il faut le rappeler aussi, c'est de l'emploi, hein, l'application d'une transition comme nous on la pense, elle a été chiffrée par des économistes à la création nette de plus de 600 000 emplois à l'horizon 2050. Donc je pense que pour l'humain, au-delà des contraintes climatiques, il y a aussi beaucoup d'autres avantages.
D'accord, donc on voit que cette transition énergétique, c'est très large. Nous, sur notre secteur, là, on est un petit peu focalisé sur un projet de parc éolien. Alors, quelle est la place de l'éolien dans la transition et dans votre scénario?
Alors, dans notre scénario, l'éolien joue un rôle majeur, hein, je veux dire, ce que j'ai pas dit là à l'instant, mais c'est qu'il faut agir vite quand même pour aller dans cette transition. Ça fait quand même 10-15 ans qu'on en parle et malheureusement, on n'a peut-être pas aussi avancé aussi vite qu'il aurait fallu. Donc effectivement, l'éolien, c'est important. Alors pourquoi c'est éolien? Je vous ai dit que l'électricité, c'était pas la première des consommations d'énergie, mais c'est quand même aujourd'hui un vecteur énergétique dont on ne peut pas se passer, hein. On a beaucoup ce qu'on appelle des usages de l'électricité spécifiques, hein, tels les ordinateurs par exemple, hein, pour pas les citer. Donc on a besoin d'électricité et l'éolien, dans notre scénario, c'est la première énergie renouvelable qui fournit d'électricité en 2050, avec une production, alors je vais donner quelques chiffres, c'est peut-être un peu barbare, mais voilà, de plus de presque 250 TWh, ce qui est quand même un chiffre important, hein. C'est presque la moitié de ce qu'on produit aujourd'hui. Cette production d'éolien, elle est complétée principalement par du photovoltaïque, du solaire photovoltaïque derrière. Voilà. Donc, c'est pas la première des énergies, parce que la première, c'est le bois, hein, c'est la biomasse solide qui, elle, permet de faire de la chaleur. Et puis après, il y a le biogaz aussi, qui est important pour faire de la chaleur. Mais en termes d'électricité, l'éolien, c'est vraiment la première des sources de production dans le scénario. Alors évidemment, ça veut dire installer beaucoup d'éoliennes. Hein. Vous avez un projet à Noyant et à Gypsy, là. Alors moi, je trouve ça génial, hein, pour connaître un petit peu le coin. Mais voilà, je sais que tout le monde n'est pas de cet avis-là. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si on regarde le scénario négawatt, en 2050, on arriverait en puissance installée sur Terre à 48 gigawatts. Alors ça vous parle peut-être pas beaucoup, ça veut dire grosso modo entre 15 000 et 16 000 éoliennes en France, en 2050. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Allemagne, par exemple, il y a déjà plus d'éoliennes que ça. Ça veut dire que l'ambition pour la France en 2050, ça serait d'avoir moins d'éoliennes que ce que l'Allemagne a déjà aujourd'hui en 2017. Donc vous voyez, c'est pas non plus quelque chose de faramineux, hein. Je pense que si les Allemands l'ont fait, on est tout à fait capable de le faire. Mais voilà, ça veut dire, grosso modo, que tous les territoires en France où il y a quand même une ressource en vent doivent s'équiper avec ces éoliennes, qui ont quand même pas mal de vertus. Elles sont pas difficiles à installer, elles sont pas difficiles à démonter quand elles arrivent en fin de vie. Elles peuvent créer de l'emploi. Mais c'est sûr que ça va être un effort assez conséquent parce qu'on part quand même pas de zéro, mais voilà, on n'est pas très développé en France à ce niveau-là.
Alors, pourquoi privilégier l'éolien par rapport au solaire?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a beaucoup de ressources en France, à la fois en vent et en soleil, bien sûr, un peu comme tout le monde. On a besoin, si on veut arriver à se passer des ressources centrales à gaz, en partie, mais surtout de centrales nucléaires, il faut qu'on puisse diversifier les modes de production le plus possible. Parce que si on voulait tout faire en solaire photovoltaïque, on n'aurait pas assez de surface.
D'accord.
Et si on voulait tout faire en éolien, on n'aurait pas assez de surface.
D'accord, il faut les deux.
Il faut impérativement les deux, je dirais même, elles ne sont pas les seules, hein, j'ai cité que ces deux-là, mais il y a une complémentarité importante qui se fait avec la production d'hydroélectricité, hein, notamment les barrages. Il y a de la géothermie qui peut servir sur la chaleur, sur le solaire thermique aussi. Et on ne va pas rentrer dans les détails, sauf si vous le souhaitez, cette production, alors qu'évidemment est qualifiée d'intermittente à tort, hein, parce que toutes les productions sont intermittentes, elle est variable, elle dépend de la météo, mais si on combine justement différents types de solutions, qui ont des moments de production à différents moments, et si on les pilote intelligemment, notamment avec du stockage, hein, à différentes échelles de temps, nous on a montré, et on a montré ça de manière très sérieuse avec le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France, hein, RTE, donc qui est vraiment la référence officielle sur le sujet, qu'il n'y a aucune coupure d'électricité avec un modèle de production comme nous on l'a décrit, puisque, et on a regardé ça heure par heure, hein, sur 30 ans, quelles que soient les conditions météo, au temps de l'heure, enfin au pas horaire, on maintient l'équilibre offre-demande et il n'y a pas de problème de coupure d'électricité.
Alors cette transition donc doit se mettre en place, votre scénario va jusqu'en 2050. Quel niveau d'effort cela va impliquer au fil des ans ?
Alors oui, c'est important. Comme je l'ai dit, on part pas de zéro, mais enfin on part pas non plus d'un très grand niveau d'installation d'énergie renouvelable en France. Alors si je parle que de l'éolien, grosso modo en France aujourd'hui, on est à 17 gigawatts installés. Nous, donc je vous l'ai dit, on vise d'avoir 48 gigawatts, donc ça fait quand même 30 gigawatts, plus du double qu'il faut installer par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. C'est à peu près raccord avec les objectifs que la France s'est donné officiellement. Donc grosso modo, ça veut dire qu'on installe 2 gigawatts par an. Et 2 gigawatts, ça fait à peu près... ça fait 600 nouvelles machines chaque année à peu près, 600 nouvelles éoliennes. Alors sachant qu'en 2020, par exemple, on n'en a installé que 417. Alors on n'est pas très loin du bon rythme, mais on n'est pas encore tout à fait au bon rythme. Donc ça veut dire quand même qu'il faut donner un petit coup de collier. On n'en est pas loin, on a quand même des acteurs industriels en France qui sont capables de le faire. Alors évidemment, on est souvent obligé d'acheter notamment des générateurs éoliens à l'étranger parce qu'il n'y a pas de vraie production en France. Donc là-dessus, les industriels y travaillent et on a par exemple le syndicat des énergies renouvelables qui a montré que si on arrivait à ce rythme d'installer 600 nouvelles machines par an, 600 nouvelles éoliennes, ça équivaudrait à créer une valeur ajoutée, hein, donc une valeur économique en France d'à peu près 2 milliards d'euros à l'horizon 2028. Et à peu près 28 000 emplois qui seraient à cet horizon de temps aussi créés. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu économique, il y a un vrai enjeu environnemental. On n'est pas très loin d'y arriver, mais c'est vrai que malheureusement, on a... évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Donc, on voit bien dans votre territoire aussi, il y a des recours, il y a des gens qui s'opposent. Bon, alors évidemment, nous, on trouve ça un peu dommage parce que, comme je vous l'ai dit, le rythme est à peu près atteignable et le niveau, la quantité d'éoliennes qui serait installée en France ne serait pas si gros que ça, finalement, par rapport à ce qu'on fait d'autres pays. Et on aurait quand même, du coup, accès à une production d'énergie propre. Hein. Il faut quand même rappeler quand même que le vent, c'est gratuit. Hein. Donc, une fois que vous avez installé l'éolienne, vous avez un peu de maintenance, vous avez de l'exploitation, mais on n'a pas besoin d'aller acheter le carburant à l'autre bout de la terre.
Donc, un véritable intérêt économique. Hein.
Oui, alors ça c'est vraiment, je pense qu'il faut le dire et le redire. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça crée de l'activité, ça crée de l'emploi. Et puis, on peut dire aussi, ça c'est important, que le coût de l'éolien terrestre en France, hein, grosso modo, il est estimé par les spécialistes entre 50 et 70 euros par mégawattheure. Alors ça ne parle pas toujours beaucoup pour les Français en général qui ne sont pas spécialistes de l'énergie, c'est bien normal. Mais pour vous donner une idée, les réacteurs nucléaires neufs, hein, que EDF a vendu en Angleterre et qu'ils sont en train de construire à Flamanville, sont à peu près à 100-110 euros du mégawattheure. Donc ça veut dire grosso modo aujourd'hui l'éolien coûte entre presque deux fois moins cher que le nucléaire. Sur le photovoltaïque, on a eu des réductions de prix encore bien plus grandes que ça. Donc en fait, aujourd'hui, les énergies renouvelables sont moins chères que le nucléaire, beaucoup moins chères que le nucléaire neuf. Elles sont quasiment au même prix que les centrales gaz classiques. Donc on a une vraie compétitivité. Et là-dessus, je pense que voilà, il y a parfois des drôles d'idées qui circulent sur le surcoût apporté par les ENR. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, elles sont compétitives économiquement. Et que même quand on les inclut dans un système global, on va dire, où il faut gérer toute l'électricité au niveau de la France avec toutes les contraintes que j'ai citées tout à l'heure, de pouvoir fournir à tout moment, avec du stockage éventuellement pour pallier les moments où il n'y aurait pas de vent et pas de soleil. On a encore une étude récente qui a montré que le coût global, hein, si on calcule le coût global pour la France, qu'on appelle le coût technique et le coût social, de ce système avec beaucoup d'énergie renouvelable, il est en fait pas plus cher que si on fait comme aujourd'hui. Donc en fait, je pense que là-dessus, en tout cas au niveau économique, il n'y a pas de question, on n'est pas du tout sur quelque chose qui mettrait la France dans le rouge.
On a parlé tout à l'heure du démantèlement, quelle est la durée de vie d'une éolienne ?
Alors, peut-être que vous en parlerez avec un autre interlocuteur plus spécialisé que moi dans l'éolien, mais grosso modo, la durée de vie d'une éolienne aujourd'hui, c'est 25 ans. Donc ça veut dire qu'effectivement, au bout de 25 ans, l'entité qui exploite un parc éolien doit se poser la question, est-ce qu'elle peut durer un peu plus longtemps ? Parce que bon, bien souvent, quand on dit 25 ans, c'est que le constructeur donne une garantie sur 25 ans de la qualité de production. On a vu dans le solaire, par exemple, les premiers panneaux solaires qui ont été installés il y a 20 ans, qui étaient vraiment des panneaux solaires pas très performants, et ben ils produisent encore aujourd'hui, et avec des performances pas très dégradées. Donc bon, tout ça, ça risque de s'améliorer. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, il y a un cycle qui va se mettre en place. Hein, si on rentre dans ce système d'énergie renouvelable, on va installer des matériels qui vont avoir peut-être des durées de vie de 20, 25, 30 ans, et puis qu'on remplacera au fur et à mesure, où il y aurait eu des progrès technologiques, car on le voit déjà aujourd'hui, les éoliennes d'aujourd'hui n'ont vraiment rien à voir avec celles qu'il y avait il y a 10 ans, qui sont du coup plus performantes, avec des matériaux plus facilement recyclables, avec des productions plus élevées. Donc tout ça nous amène à un rythme, c'est de l'industrie aussi, hein, avec des gens qui travaillent derrière et qui peuvent mettre ça en place.
Donc dans votre étude économique, vous avez pris compte du remplacement ?
Oui, tout à fait. En fait, quand les gens qui font ça... Alors nous, sur le scénario négawatt, on n'a pas d'étude économique. C'est vraiment un scénario technique qui montre que techniquement, c'est possible. Mm-hmm. Et par contre, il y a des économistes qui, eux, utilisent, entre guillemets, notre scénario pour voir quel coût économique il y a derrière. Et vraiment, pour l'instant, toutes les études qu'on voit apparaître... montre que c'est pas plus cher, qu'il n'y a pas de surcoût réel et que, bien sûr, tout ça est calculé sur un rythme de vie qui intègre le démantèlement de ces moyens de production.
D'accord. Et bien, pour conclure, la population dans notre territoire est invitée à se prononcer sur l'installation d'un parc éolien. Quel serait votre dernier mot pour alimenter leurs discussions et décisions éventuelles ?
Écoutez, moi, je pense qu'il faut voir ça comme un intérêt... C'est un projet positif pour le territoire. Les 6 éoliennes là, qui sont prévues sur Gipsy et Noyant, au-delà du fait que, bon, moi je trouve que c'est un signe de modernité, donc je trouve ça plutôt engageant, parce que ça peut être couplé avec d'autres projets de méthanisation ou je sais pas quoi, hein, sur le département de l'Allier en général. Moi je pense qu'il y a un vrai intérêt à voir ça comme une opportunité, un signe de modernité. Et puis j'ai cru comprendre que le porteur du projet prévoyait un financement participatif hein, pour ce projet. Et moi, je pense que les citoyens aujourd'hui, pour ceux en tout cas qui ont de l'épargne à placer, ont tout intérêt à mettre quelques sous dans ces projets, parce que voilà, ils représentent l'avenir et ça serait dommage de passer à côté de ce marqueur positif pour la transition énergétique.
Mais merci, monsieur Stéphane Signoret. Donc, il fait partie de l'association Négawatt. Et puis, on va laisser les gens surtout le préfet décider.
Merci à vous. Et bon débat à tout le monde. Alors.
Merci.
Au revoir.
Dans notre série d'interviews sur le projet du parc éolien sur Gipsy-Noyant, j'ai le plaisir de recevoir M. Paul Nau. Bonjour.
Bonjour.
Alors, à noter tout de suite qu'on ne parlera pas spécialement du projet sur notre secteur, Noyant et Gipsy, puisque vous ne connaissez pas spécialement ce projet, mais ça sera plutôt un avis technique général sur l'éolien.
tout à fait. Je vous confirme, hein, si, donc, si je peux me présenter ou si je me présente en 30 secondes.
Hein. Ouais.
Donc moi, je suis le gérant d'un bureau d'études qui s'appelle ABIES. Donc c'est un bureau d'études qui est pionnier en matière d'impact sur l'environnement des énergies renouvelables électriques. Et donc on travaille pour dans toute la région française, on travaille pour différents projets, dont d'après ce que j'ai compris, celui qui travaille, qui projette un projet sur le territoire de notre communauté de communes. Mais nous, on n'a pas travaillé du tout sur ce projet-là. Donc je confirme que je serai dans des généralités.
Voilà, vous faites partie aussi de l'association Négawatt. Nous avons eu tout à l'heure Monsieur Stéphane Signoret, qui donc s'intéresse depuis très longtemps à ces énergies renouvelables. Alors, vous plus spécialement donc sur l'éolien, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement et rapidement, ce qui va pas être simple, comment fonctionnent les éoliennes ?
Alors, donc l'éolienne, donc c'est un engin, c'est un objet qui transforme une énergie mécanique, hein, donc par là, par un rotor. Hein, nous avons un rotor composé de trois pales qui est entraîné par le vent. Donc cette rotation va entraîner une génératrice électrique qui va produire de l'électricité. Donc c'est un peu plus simple sur le principe. Et si je rentre un peu plus dans les détails, ben c'est quelque chose qui existe maintenant depuis une trentaine d'années. Il y a 200 000 ou 300 000 éoliennes qui travaillent à travers le monde, et donc on a un retour d'expérience, on sait ce qui marche, il y a eu des échecs, mais on est dans une manière de production d'électricité qui est mature aujourd'hui.
Donc votre bureau d'études travaille pour ceux qui implantent les éoliennes, quel est votre rôle exactement ?
Donc, dans le cadre d'un projet de parc éolien, comme de tout aménagement sur le territoire national, il y a des autorisations administratives. Donc, dans le cadre d'une autorisation administrative d'un parc éolien, on appelle ça un DDAE, une demande d'autorisation environnementale. Et le cœur de cette demande d'autorisation, c'est une étude d'impact sur l'environnement. Donc nous, on rédige, on fait ce genre d'étude d'impact sur l'environnement, qui est donc le cœur de cette demande, et qui est consultable lors de l'enquête publique par les riverains, par le public.
D'accord, c'est dans l'enquête publique. Mais est-ce que vous choisissez les sites d'implantation ou...
Nous, on intervient sur un site précis. Donc, il y a un site qui est envisagé pour l'implantation d'éoliennes. Et là, il y a toute une démarche donc, d'appui, de conseil par des bureaux d'études tels que le nôtre.
D'accord.
Globalement, ça commence par des expertises sur site. Hein, donc, il y a un lieu donné, donc des expertises sur la faune, sur la flore, sur le bruit, sur le paysage. Et les conclusions, les résultats de ces expertises vont permettre aux concepteurs de projets, aux porteurs de projets, d'optimiser son projet ou de l'abandonner. Hein, ça peut arriver s'il y a des enjeux rédhibitoires. Et donc, de concevoir un projet qui va respecter les enjeux, les contraintes, puis généralement l'environnement humain et l'environnement naturel.
D'accord, donc tout ce qui préoccupe aussi les habitants qui sont proches de ces éoliennes. On a vu que des nuisances sonores et visuelles, c'est souvent ce qui les préoccupe le plus. Et il y a quelques jours, là, un parc a été mis à l'arrêt, même pour nuisances sonores. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, comme je suis dans les grands principes et je ne connais pas l'exemple dont vous parlez, ce que je peux dire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on sait d'où vient le bruit des éoliennes. Donc le bruit des éoliennes est lié à l'extrémité des pales qui fendent l'air. Hein. En bout de pale, vous avez des vitesses supérieures à 200 km/h. Et c'est ce bruit-là qui est la principale source de bruit d'une éolienne. Et donc, comme on a un retour d'expérience, les fabricants ont conçu des systèmes pour que cette extrémité de pale soit moins bruyante. Et en particulier, régulièrement, ils s'installent de ce qu'on appelle des dispositifs de serration qui sont inspirés de la chouette et qui donc permettent de réduire à la source les émissions sonores. Donc ça, c'est un des éléments. L'autre élément que l'on peut indiquer, c'est qu'en France, on a une réglementation sonore qui est très protectrice des riverains,
puisqu'elle est la réglementation la plus sévère en Europe, parce qu'elle s'appuie sur des mesures de l'ambiance sonore avant l'implantation des éoliennes, et on a le droit de dépasser de 5 décibels le jour et de 3 décibels la nuit. Donc c'est une réglementation sévère, mais intelligente. Et puis ce que je peux rajouter sur la question du bruit, c'est que il y a des mesures, des observations qui se font sur site avant l'implantation des éoliennes, il y a des modélisations, et suite à ça, s'il y a un risque de dépassement des niveaux sonores dont je viens de parler, il y a un bridage des éoliennes, donc soit un bridage où elles vont fonctionner à puissance réduite, donc à puissance électrique réduite, ça veut aussi dire à puissance sonore réduite, ou un arrêt dans les périodes à risque de nuisance auprès des riverains. Donc on a vraiment toute une chaîne, un ensemble de qui encadre la démarche d'expertise acoustique d'un projet de parc éolien qui permet donc de limiter considérablement les gènes sonores pour les riverains.
Alors on parle aussi de nuisances visuelles. Alors le visuel de l'éolienne par elle-même, ça dépend des personnes. Certaines trouvent ça moche et d'autres très très joli. Mais des lumières en particulier qui clignotent en permanence.
Alors c'est ce balisage, c'est un balisage par feu à éclat qui est blanc le jour et rouge la nuit, c'est imposé pour des raisons aéronautiques. Donc c'est toutes les éoliennes de France auxquelles on demande que des tels feux éclats soient implantés sur le dessus des nacelles. Ceci dit, il y a des améliorations, il y a des tests qui sont faits pour que ce balisage ne se déclenche qu'en cas de nécessité de l'approche d'un objet volant non identifié, donc d'un aéronef qui se présenterait dans les environs d'un parc éolien. Et donc dans ces cas-là, ce balisage par feu à éclat se déclenche, mais ne fonctionne pas de manière permanente. Donc ça, c'est des tests, c'est des progrès. Dans d'autres pays, ça fonctionne. On peut penser qu'un jour ou l'autre, ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être une gêne, mais c'est une obligation réglementaire pour des raisons aéronautiques.
Donc par rapport aux premières éoliennes, ça a beaucoup évolué.
On parle un peu plus sur la technique, mais qui explique beaucoup de choses. Les éoliennes, aujourd'hui, sont plus hautes parce qu'elles vont chercher le vent plus haut. Parce que plus on monte en altitude, plus il y a de vent. Mmh. Donc ça, c'est un moyen de récupérer plus d'énergie éolienne. Et comme elles sont plus hautes, vous avez la possibilité de mettre des diamètres de rotor plus grands et donc d'avoir... par éolienne, une puissance unitaire plus importante. Si je rentre dans le détail, la puissance d'une éolienne, c'est fonction de la surface balayée par les balles. Donc vous voyez, plus le rotor est grand, plus on augmente la capacité de production d'électricité. Et que c'est aussi fonction du cube de la vitesse du vent. Donc la différence entre un site peu venté et un site moyennement venté, et dans ces cas-là, est conséquente puisque c'est fonction du cube de la vitesse du vent. Et donc ça explique aujourd'hui que les éoliennes sont plus grandes que les premières générations et puis aussi intrinsèquement elles sont aussi plus performantes, elles sont plus fiables, elles produisent aussi un kilowattheure moins coûteux par rapport à il y a quelques années.
Donc vous réalisez les études d'impact et vous êtes totalement indépendant.
Nous, l'étude d'impact, c'est quelque chose, le contenu de l'étude d'impact, la méthodologie de l'expertise est définie par des textes nationaux, par des réglementations, par des guides régionaux. Donc nous, on applique ces méthodes-là. On a des résultats et tout ceci est présenté dans l'étude d'impact. Donc nous, on est effectivement rémunéré par celui qui porte le projet. C'est la même chose pour tous les aménagements, que ce soit une ligne électrique, un aéroport, une centrale nucléaire ou un parc éolien. Donc c'est le porteur de projet qui finance ses expertises, mais on a la DREAL, qui est donc la Direction Générale de l'Environnement, qui est le gendarme qui va vérifier que les expertises ont été bien menées, qui va regarder les conclusions, qui va regarder les mesures qui sont mises en place pour réduire les impacts, et qui va dire c'est suffisant ou pas insuffisant. Donc on s'inscrit dans tout un processus. C'est pas nous, bureau d'études, qui vont conclure en disant ce parc éolien, il est faisable, il n'est pas faisable. On donne des éléments pour que la DREAL juge de l'intérêt et puis du respect de ce projet sur l'environnement en général.
Alors une question un petit peu délicate, peut-être, est-ce que vous pensez que cette réglementation est suffisante ?
Bon, si moi je le vois par rapport à nos bureaux d'études, ce que je peux dire, c'est que là, on a un empilement, on a des exigences qui sont très importantes. Nous, des fois, on pense qu'on pourra aller plus vite en termes de décision parce qu'on nous demande plus de dossiers alors que toutes les expertises ou les conclusions des expertises, on les a. Donc, on a vraiment des exigences en matière donc, d'études sur la faune et la flore, sur le paysage, sur le bruit, qui sont très conséquentes. Et elles sont, on fait partie, là aussi en Europe, des pays qui ont des... dans le top du niveau des exigences. On a vraiment beaucoup de documents à fournir de manière initiale et puis aussi souvent sur la forme de compléments donc demandés par la DREAL.
Bon, ce qui est plutôt une bonne chose. Vous m'avez parlé tout à l'heure de cas rédhibitoires. Vous avez un exemple ou deux ?
Oh ben, on a des endroits où, oui, pour des raisons, en particulier par exemple d'avifaune, donc d'oiseaux ou de chauves-souris, où on est dans un endroit où il y a des enjeux. Et donc, la conclusion des expertises, c'est de dire ben, le projet ne peut pas se faire, ou il y aurait tellement de conditions pour son fonctionnement, hein, donc d'arrêt des éoliennes, de bridage des éoliennes, ou de diminution du nombre d'éoliennes, qui ferait que le parc éolien ne pourrait pas se construire. Donc ça arrive, je dirais, régulièrement, que des projets sont abandonnés pour ces raisons, Donc là, l'exemple que j'ai cité, mais c'est l'exemple le plus fréquent pour la biodiversité.
Est-ce que les associations d'opposants, pour vous, ça compte ou pas ?
D'une part, on est dans un pays démocratique. Ouais. Donc, c'est évident que tout le monde peut s'exprimer. Il y a des questions qui sont posées. Donc, le porteur de projet et l'étude d'impact doivent y répondre. Et donc, ça fait partie de on est dans les règles de l'art, dans tout ce qui se passe, c'est un aiguillon pour que le projet soit de meilleure qualité. Ça fait partie de ce processus, qui est un processus qui n'est pas linéaire, mais qui va permettre d'avoir un projet qui va prendre encore plus largement les questions d'impact sur l'environnement, donc sur le milieu naturel et sur le milieu humain.
Alors une dernière question sur le recyclage, quelle est la durée de vie d'une éolienne ?
Je vais répondre, la durée de vie technique d'une éolienne, c'est d'une vingtaine d'années. Donc, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, tout en sachant que lorsqu'on voit la première génération d'éoliennes, aujourd'hui qu'elle est implantée, elle peut éventuellement avoir une durée de vie moindre, parce que les nouvelles éoliennes sont beaucoup plus performantes. Mmh. Mais de manière générale, c'est une vingtaine d'années. Et depuis maintenant juin 2020, il y a des textes qui réglementent le démantèlement des éoliennes et leur recyclage. Donc maintenant, le démantèlement, c'est des démantèlements total de l'intégralité des fondations, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis, c'est...
Oui, donc même du bloc de béton au pied.
Tout à fait.
Oui, d'accord.
Aujourd'hui, c'est 100% de demande en ce qui concerne les fondations. Et puis, en ce qui concerne le recyclage des composants d'un parc éolien, il y a maintenant des taux de recyclage qui sont imposés, qui sont de 95%, mais qui vont évoluer pour que ce recyclage se fasse. Et on est donc dans un processus d'amélioration continue, puisque les exigences dont je vous parle, elles sont renforcées d'année en année à partir de maintenant, tout en sachant que les masses les plus conséquentes d'un parc éolien, c'est l'acier, c'est le béton et c'est la fibre de verre d'Epal, qui sont donc des matériaux qui ne sont pas toxiques, des matériaux qui peuvent être recyclés pour certains et valorisés pour d'autres.
D'accord, et bien c'est beaucoup plus clair. Pour conclure, un dernier mot pour nos auditeurs qui sont appelés en ce moment à répondre à une enquête publique. Qu'est-ce que vous leur diriez ?
De visiter un parc éolien. Le plus simple, c'est de visiter pour se rendre compte d'un certain nombre de choses. C'est de le voir par eux-mêmes. Donc, peuvent apprécier ainsi ce que c'est, hein, l'occupation du sol, le bruit, et de manière plus générale, ce que c'est un parc éolien, lorsqu'on parle donc d'un système de captation de l'énergie du vent, et de se faire leur propre opinion, et puis après, donc, d'en conclure quant à l'intérêt ou non d'un projet localement.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Paul Naud, de nous avoir consacré quelques minutes pour mettre au clair tout ce côté technique sur les éoliennes. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.